Bonjour à tous et bienvenue à la Médiconserie de la 27e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. On est présentement en diffusion sur Facebook en direct et au canal M. Et je tiens de dire merci au public qui sont avec nous dans la salle, c'est très apprécié. Et aux interprètes LSQ, c'est un cadeau, on apprécie énormément leur présence. Et également, je voulais juste vous dire que pour les personnes qui ne me connaissent pas, bien, je m'appelle Rosalie Tempère-Simard. Je suis une personne malentendante et aussi animatrice, comédienne, conférencière, artiste, peintre. J'étudie en arts visuels, donc c'est une de mes passions. Et je suis également porte-parole de la semaine qui est du 1er juin jusqu'au 7 juin. Alors, cet événement se portera sur les défis et les joies de la parentalité chez les personnes handicapées. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous des parents inspirants qui ont une différence et aussi des personnes ressources qui sont là aussi pour aider ces parents-là pour ce rôle-là de parent, évidemment. Alors, c'est ça. Le sujet là, qu'on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je suis présentement enceinte de 6 mois. Donc, déjà dans 3 mois, je vais être maman. Merci. J'en viens pas, je réalise pas en même temps, mais je suis vraiment fière de l'être et j'espère d'être une bonne maman. Alors, c'est pour ça que je suis ici, pour écouter les bons conseils, et je vais apprendre plein de choses. Et à côté de moi, il y a Camille Tchaï qui va animer cette médiconserie. Et c'est une personne avec qui que j'adore travailler. Merci de te joindre à nous. Elle est tellement inspirante. Alors, je vous laisse la parole à Camille Tchaï.
Merci, ma chère Rosalie.
Ben, ça fait plaisir.
J'ai envie de vous dire que moi aussi, je suis très heureuse d'être ici et justement pour parler de ce sujet qu'on a tous à cœur. Rosalie, tu viens nous dire que tu es enceinte. Moi, j'ai le projet aussi d'être maman bientôt, je l'espère, si la vie le veut. Donc, moi aussi, je vais avoir une oreille attentive en même temps. Et j'aimerais en fait qu'on accueille tout de suite nos invités parce qu'on a 7 magnifiques invités avec nous aujourd'hui. Donc, je vais nommer chacun votre nom et je vais vous demander brièvement de nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et comme vous êtes parents, on aimerait évidemment savoir combien d'enfants est-ce que vous avez. Donc, Guillaume Parent, je vais commencer avec vous.
Ben oui, c'est Guillaume Parent, merci de la séance. Je suis président fondateur de Finanscap, un cabinet de services financiers dédié aux personnes handicapées et au régime enregistré des parents invalidités. Et l'aventure de la parentalité a commencé pas mal en même temps que cette création de compagnie-là, donc Roméo, 12 ans, et Rachel, 5 ans.
Bien, merci. On a avec nous l'ambassadeur de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Nicole Lédilex-Batuelli. Merci d'être là.
Merci Rosalie, merci Camille, merci Guillaume. Bonjour tout le monde, je m'appelle Luca, je suis aussi connu comme Lazy Legs. Je suis un danseur professionnel, une chorégraphe, conférencier aussi, puis je suis papa de 2 petites filles. Ma plus grande fille, elle a 7 ans, elle s'appelle Aura, puis ma plus petite, elle s'appelle Luna, puis elle a 3 ans, puis Luna, actuellement, est née avec le même handicap que moi. Alors, c'est un peu comme ma
ton
lazy
étoile,
Luna. Ouais. Non, c'est ça, c'est ma petite. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte de partager un peu plus mon histoire avec vous, puis j'ai hâte d'entendre vos histoires aussi. Ça. Merci tout le monde.
Merci, Lucas. Evelina Pitouch, bienvenue.
Ben oui, merci beaucoup Camille, Rosalie, bonjour tout le monde, bonjour au public aussi. Je suis chercheure postdoctorale à l'Université de Toronto, Scarborough, en Ontario. Je suis également ergothérapeute de formation, puis tous mes travaux de recherche portent sur la parentalité en situation de handicap, donc ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce très beau et important sujet. Merci de l'invitation.
Merci. Et l'autre invité qu'on a aujourd'hui, c'est Lucilla Guerriero. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter légèrement, s'il vous plaît?
Oui. Bonjour et merci pour l'invitation, merci pour l'organisation et le choix du sujet. Je suis Lucila Guerrero, je suis pédagogue en santé mentale, collaboratrice de recherche. Je suis aussi artiste, autrice et maman d'un jeune adulte. Je suis autiste et engagée dans la communauté de l'autisme. Et c'est ça.
C'est parfait. Merci beaucoup. Donc ensuite, on a Debbie Véniche. Bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis travailleuse sociale au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, aux directions DITSA, alors la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l'autisme. Et je travaille au service parentalité. Alors, mes clients sont des parents, principalement des mères, mais aussi quelques pères, majoritairement avec une déficience intellectuelle, mais on commence à avoir plus de demandes aussi pour les parents avec un TSA. Merci beaucoup.
Merci. On a aussi Célène Démétrie parmi nous.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis contente d'être là. Moi, à chaque fois qu'on peut parler de ce merveilleux sujet, je suis la première à lever la main et à vouloir venir coopérer. Donc, je suis maman de deux jeunes filles de 10 et de 12 ans. Et je suis aussi la présidente de l'Association québécoise des parents en situation de handicap. J'ai plusieurs chapeaux aussi dans ma vie en général. Je travaille comme en figuration, aussi un petit rôle à la télé. Je fais aussi des conférences et on a beaucoup de choses à dire hein, quand on a ce genre de vécu. Et je suis bénévole aussi à l'école de mes enfants, qui est une école alternative qu'on a mis sur pied en la fondant à Terrebonne. Donc, je suis bien fière de tous ces chapeaux.
Bravo, on espère en profiter aujourd'hui de plusieurs de vos chapeaux. Et la dernière et non la moindre, Nathalie Allard, bienvenue.
Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je suis ergothérapeute à la clinique Parents Plus du Centre de réadaptation en déficience physique, Lucie Bruno, dans le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Très petit titre d'installation. Donc, nous, on aide spécifiquement les parents qui ont un problème de santé physique, à prendre soin de leur enfant 0-2 ans. Donc, voilà, on est une équipe d'ergothérapeutes avec des techniciens aussi également qui prodiguent des conseils aussi, qui font des prêts d'équipement. Alors, merci pour l'invitation.
Merci à vous tous d'être ici. Bon, alors on le sait, le sujet est assez clair. On parle de, oui, être parent quand on est en situation d'handicap. Mais tiens, Rosalie, j'ai envie de commencer avec toi. J'aimerais savoir, toi, justement, est-ce que ça a toujours été un projet ou un rêve de devenir maman, d'être enceinte, ou c'est arrivé comme un cadeau?
Oh mon Dieu, bonne question! Mais c'est sûr que au début de l'année, ça faisait 10 ans que j'étais avec mon amoureux, parce que ça faisait un bout de temps qu'on était ensemble. Mais je dirais, plutôt, on n'était pas prêts d'avoir des enfants parce qu'on a acheté une vieille maison puis on l'a rénovée au complet. Fait qu'on voulait vraiment finir les rénovations puis d'être bien installé. Alors là, c'est dernièrement, on s'est dit, après un voyage, on s'est dit, là, ça serait le bon moment. T'sais? Fait que là, c'est pour ça qu'on a commencé, je dirais, en décembre l'année passée, à comme essayer d'avoir des enfants. Et là, mais finalement, ça arrivait pas longtemps après. Donc, on était très chanceux. Mais j'étais vraiment surprise. Puis moi, j'étais pas quelqu'un qui voulait faire un test de grossesse rapidement. Là, c'est moi, je prenais mon temps. Je me disais, ah, oh, ben j'ai un peu mal au cœur, mais tu sais, je passais pas le test tout de suite. J'attendais. Mais finalement, ben à un moment donné, j'ai passé le test. C'était plus que 3 semaines déjà. Oh. Puis là, j'étais comme, quoi? Puis j'étais allée les cours. Hey, j'étais rendue à 8 semaines de grossesse déjà, j'en venais pas. J'étais comme, mon Dieu, okay, j'étais vraiment pas pressée à avoir le test. Mais c'est ça. Fait, tout le monde, on est bien contents. On est très contents.
Ben, encore une fois, bravo et félicitations à vous deux. Oui, on veut vous applaudir.
Oh mon Dieu, merci!
Donc, écoutez, c'est une discussion, c'est un médicoserie, c'est une discussion qui est ouverte. On veut évidemment tous vous entendre. Je vais commencer avec Guillaume, mais si vous voulez suivre le même ordre ou intervenir, lever la main, sentez-vous bien à l'aise. On veut connaître le début aussi de votre histoire à chacun. Donc, votre désir d'être parent, est-ce que vous aussi, ça a été quelque chose qui a été longuement réfléchi, préparé à l'avance
pas
ou non?
Tout.
Pas
en
tout.
Non, pas du tout. Hein. C'est mon ami que plusieurs ici connaissent, André Leclerc, qui a paralysé. C'est vrai, j'ai eu deux enfants qui m'ont dit « Ah, c'est possible! » Donc, moi, j'avais une copine à l'époque, Fanny, je suis toujours avec la mère de mes enfants, puis on voyait les enfants, ça ne marchait pas. Donc, on est allé voir un médecin pour me faire dire par le médecin, ben, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. C'est un peu un vieux médecin grincheux.
Un vieux médecin.
Pour moi, il y avait une couple de préjugés en arrière de la cravate, mais bref, donc on a voulu adopter. Mais l'adoption, c'est aussi un milieu avec beaucoup de préjugés.
Ah, oui.
Donc, on a abandonné le projet pendant 10 ans.
Quand même.
Donc, plusieurs d'elles pour avoir un autre médecin qui disait non, non, c'est ta femme qui ne peut pas en avoir. Okay, alors là, dommage pour ma femme, elle, ça montait un peu. Mais donc, on a eu un bébé vraiment miracle. 15 ans après, vouloir une famille, et un deuxième 7 ans après. Donc, mais c'est vraiment un modèle de parent handicapé. André Hitler qui m'a, sans le savoir, montré que c'était possible.
Donc, la patience et garder la foi, la confiance que c'est possible malgré ce que des spécialistes de la santé vous disent.
Non. Non, non, pas du tout. C'était une surprise.
Ah oui.
On n'avait plus la foi.
Ah oui.
On a quitté nos emplois, fondé une compagnie, puis deux mois après, pouf.
Incroyable. Oui, le public a encore envie de vous applaudir avec raison. Oui. Bravo. Luca.
Ah, merci Guillaume pour partager ça, comme c'est vraiment beau histoire. Puis pour moi, je dirais que avant de rencontrer ma femme Elisa, j'attendais pas d'être comme une homme de famille. J'étais un peu plus comme career focused, vraiment plus comme je vais tourner le monde, je vais faire mes choses à moi. Puis c'est vraiment après rencontrer ma femme Elisa où je dis, OK, peut-être on peut avoir une famille. Mais je commençais à être très insécure avec moi-même. Parce que je me disais, comment je pourrais être une papa avec mon handicap?
Mm-hmm.
Et j'ai fait une conférence pour la dystrophie musculaire du Canada en Alberta. Puis j'ai rencontré une madame qui avait la dystrophie musculaire. Puis elle avait deux enfants. Et moi, j'ai demandé clairement, I was like, how do you do it? Comment tu le fais? Puis elle m'a juste répondu et dit, tes enfants vont adapter à toi. Et une fois que j'ai entendu ça, je suis comme, c'est vrai. C'est comme, on ne doit pas penser que nos enfants doivent comme suivre toutes les personnes, ils vont suivre à toi.
Mm-hmm.
Et là, je me sentais un peu plus confiant. Puis quand moi et ma femme Mélissa, on a décidé de commencer à essayer, on savait que ça allait être très dur parce que Mélissa avait quelque chose où les docteurs, même comme ils ont dit à toi, Guillaume, ça va être très difficile, très dur, presque impossible. Par contre, je trouve des fois, les docteurs, les médecins, même s'ils ont des bonnes intentions, ils ne sachent pas tout. Et je pense que chacun de nous, on est tous individuels, on est tous différents. Alors, on ne peut pas suivre qu'est-ce qu'un papier ou un livre nous dit. Puis, quand moi et Mélissa, on a commencé à essayer, c'était quasiment immédiat. Puis, Mélissa était 4 mois enceinte avant qu'on ait su qu'elle était enceinte. Et c'était seulement après qu'elle a commencé à se sentir mal. On était allé voir un docteur. Le docteur a dit, je pense qu'elle était enceinte. Et Mélissa, comme pleurait, dit, non, c'est impossible. Les docteurs ont dit, ce ne sera pas possible. Puis, il n'y avait aucune autre signe, tu sais. Puis, ils ont fait une échographie immédiatement. Et on a vu qu'elle était 4 mois enceinte. Et c'était comme, oh wow. Puis durant ce temps-là, on habitait dans une loft. Et c'était juste une chambre de lit. Et on avait comme 5 mois pour mettre une deuxième chambre de lit dans notre loft et trouver comment faire tout ça. Puis en août 2015, notre première fille, Aura, était née. Puis c'est un peu comme notre bébé miracle. Un peu comme Roméo, puis je trouve... Ça m'a pris un peu de temps d'accepter d'avoir une deuxième enfant. Je vais juste dire, parce que le premier enfant, c'est dur. mais je suis vraiment content qu'on ait une deuxième enfant aussi. Alors, oui. Et je te parle de mon deuxième après. Je laisse.
Lucas nous garde en haleine. C'est bien ça. Evina, vous êtes ici en tant que en fait, spécialiste, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que vous êtes aussi maman?
Non. Non, mais en fait, moi, ce sujet de recherche-là, d'étudier la parentalité en situation de handicap, ça m'est venu durant mes études professionnelles. Donc, j'étudiais pour devenir ergothérapeute à ce moment-là. Puis, j'étais vers la fin de mes études universitaires. Puis, j'ai réalisé à ce moment-là, bien, on a parlé d'un paquet de choses pendant mes études. On parle du rôle de travailleur, on parle de famille, on parle du rôle d'enfant. Mais jamais est-ce que durant ma formation, on avait abordé le sujet de la parentalité en situation de handicap à ce moment-là. Je pense que le curriculum a changé depuis. Mais pour moi, ça a été une grande réalisation. Puis, c'est ça qui m'a aussi beaucoup donné le goût que d'approfondir ce sujet-là, puis de rendre ce sujet... d'autant plus visible dans notre société québécoise.
Bien, une chance qu'on a des personnes comme vous qui ont un intérêt envers ce sujet et cette réalité, parce que c'est un travail d'équipe dans un couple, mais
absolument.
Avec vous aussi.
Oui, un travail d'équipe, ça prend un village, hein, on entend
exactement,
ça souvent.
Exactement, oui. Super. Madame Guerrero, votre histoire à vous.
Oui, dans mon cas, non, je n'avais pas le rêve d'être maman. Et avant de devenir maman, ma vie a été un peu compliquée et je ne savais pas encore que je suis autiste. Mais je sentais qu'il y avait une différence par rapport aux autres personnes. Et j'étais consciente qu'il y avait quelque chose dans moi et mon interprétation faisait que je me sentais coupable d'être comme je suis. Et j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et aussi que j'ai vécu beaucoup de malentendus, des événements, d'injustice, etc. Et je me questionnais même sur le sens de vivre et tout ça. Mais quand je suis tombée enceinte, c'est ça qui a changé. Et ça a redonné, ça m'a apporté le sens que la vie m'a donné pour être responsable d'une vie. Et donc, j'étais informaticienne, mais j'ai tout mis de côté pour devenir une bonne maman, pour me préparer à la maternité. Et les jours où j'ai accouché, c'était les plus merveilleux jours de ma vie. J'ai promis à mon fils que j'allais le protéger et j'allais l'accompagner toute la vie. Il a maintenant 18 ans. Et donc, je suis très fière de mon rôle de maman, et malgré plein de choses qui se sont passées dans ces 18 ans. Mais c'est ça, non? C'est que des fois, on ne pense pas trop à la maternité, on se questionne, mais dans le moment, tout ça peut changer. Mm-hmm.
La promesse que vous avez faite à votre fils, je pense que c'était la plus belle promesse que vous pouviez lui faire.
Oui, mais c'est beau.
Même question pour vous.
Oui, je suis maman aussi, j'ai deux enfants, mais il y a très longtemps, comme travailleuse sociale, en faisant mes études et comme stagiaire, en travail social, on est très passionné par le rôle de l'environnement dans la vie de la personne et le modèle social du handicap. Alors, étant stagiaire au CROM, j'ai appris qu'il y avait un programme pour les parents et bien sûr, leur diagnostic de déficience intellectuelle joue un rôle sur leur parentalité et on donne des services pour vraiment adapter à leur situation d'handicap. Mais il y a aussi plein d'autres variables sociales qui entourent le parent qui sont extrêmement importants et qu'on peut travailler en même temps que leur diagnostic. Alors, c'est ça qu'on fait en travail social et c'est fascinant de voir comment on peut faire une différence dans la vie d'une personne en travaillant leur niveau socio-économique, leur niveau d'isolement social, leur réseau de soutien, en fait. On a un groupe de soutien pour essayer d'élargir et bâtir une communauté de parents. Alors, c'est ça. Ça me passionne parce que en travail social, on est toujours en train de regarder. C'est pas juste la personne seule sur une île. Comme on a dit, ça prend un village et il y a plein d'autres variables qui entourent le parent qu'on peut travailler et essayer de changer dans la société, incluant bien sûr la discrimination qui est
trop présente. Est
toujours présente. Ouais. Oui. Merci beaucoup.
Madame Démétri, oui. Quelle est votre histoire à vous?
Alors, moi, je ne peux pas me cacher. Je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 15 ans. J'ai eu un accident de plongeon qui a fait en sorte que mon cou s'est brisé, ma moelle épinière s'est sectionnée. Donc, je ne marche plus depuis 25 ans presque. Et moi, depuis que je suis toute petite, je désire être maman. J'ai ça en dedans de moi. Et quand c'est arrivé cet accident-là, je me suis dit, wow, est-ce que je vais pouvoir en avoir? Tu sais, juste biologiquement, est-ce que ça peut fonctionner? Tu sais, c'est inconnu. 15 ans, on est encore ado, là, puis on se pose beaucoup de questions. Donc, c'est sûr, comme vous, je me suis tournée vers les professionnels de la santé, puis j'ai demandé à mon médecin traitant, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Moi, je pensais biologiquement, et on m'a répondu, oui, mais il faudrait d'abord que tu trouves quelqu'un qui veuille de toi. Alors là, quand je me suis fait dire ça, je me suis dit, wow, il n'y a plus personne qui va vouloir de moi. Ma vie est terminée. Donc, j'ai 15 ans, je fais mes 9 mois de réadaptation. Je sors de l'hôpital et qu'est-ce que j'ai? Un copain dans ma vie. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, côté cœur, je peux quand même avoir une vie qui a du sens. Puis, suite à l'accident, en fait, ce copain-là, ça n'a pas fonctionné. On a eu une vie, avec les médecins, beaucoup de problèmes de santé, parce que quand tu as un accident, un trauma de la moelle épinière, ça prend des années à stabiliser comme état. Donc, j'ai été hospitalisée souvent, j'ai eu une vie assez complexe de ce côté-là. Et à l'âge de 25 ans, je me suis dit, je suis prête, je déménage en appartement, je m'achète mon condo à moi, je veux ma vie. Je pense que je mérite de vivre une vie un peu comme les autres. Puis bon, j'ai rencontré mon mari qui est ici aujourd'hui. Un an après, je suis tombée enceinte. Après un certain voyage à Las Vegas.
Comme moi, après un voyage.
Exactement. Okay. Puis, dans le fond, j'ai su que j'étais enceinte 3 semaines après la conception parce que j'ai pleuré devant une émission de télé ou une pub quelconque. Et là, mon mari a fait « Wow, toi, t'es pas une émotive comme ça. C'est sûr que je m'en vais t'acheter un test de grossesse. » Donc, effectivement, j'étais enceinte, puis j'ai passé l'échographie. Et on voyait même pas tellement que c'était le début. Donc, pour les hormones, ça me fait effet. Donc,
Rosalie, comment faire?
Ah oui, mais ouais. Là, je pleure aussi, là. Tout est fait, n'importe quoi.
Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai fait le contraire de toi. Je me suis acheté une maison à rénover après avoir eu des enfants. Une vieille maison à adapter, une centenaire aussi. Donc, on est encore dans les adaptations 9 ans après, mais c'est pas grave. On a plein de beaux projets. Puis,
ben oui, d'aller nous en sortir, certainement.
Exactement. Puis, je trouvais ça beau d'entendre que ça prend un village, une communauté pour élever des enfants. Mais souvent, on voit ça de notre côté à nous. Nous, on a besoin d'être entourés pour élever nos enfants. Mais je pense que nous, ce qu'on apporte aussi aux enfants des autres dans la communauté, à répondre à leurs questions, à dédramatiser un peu le handicap, à en parler, à être réceptif aux jeunes. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que la société va évoluer parce que ça passe par les enfants pour être capable de grandir dans une société qui va être beaucoup plus inclusive, même si ça s'en vient bien, je trouve. Moi, depuis 25 ans, ça
donne espoir. Oui.
Oui, ça donne espoir. Donc, voilà.
Merci infiniment.
Merci.
On poursuit la tradition.
Je voulais juste ajouter une blague à dire « Qu'est-ce qui se passe à Vegas à part rester à Vegas?
» J'ai ramené un cadeau de Vegas.
Oui, c'est ça. Et madame, alors, est-ce que vous avez des enfants?
Non, moi, je n'ai pas d'enfants. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit frère puis des nièces aussi. Alors, moi, je suis l'autre portion du village.
C'est
la tante, c'est la grande sœur. Puis je pense aussi qu'on a besoin de ces gens-là aussi pour contribuer au quotidien des enfants. Puis ça me laisse. J'ai toujours aimé la parentalité, les enfants comme tels. C'est très intéressant aussi d'aider les personnes dans cette grande réalisation-là. Je suis un petit peu nerveuse, mais je voulais dire d'ailleurs que la fondatrice de la clinique Parents Plus, qui a été fondée il y a 25 ans, a été faite par une femme aussi qui n'a pas d'enfants.
Okay.
Alors,
Oui,
c'est ça. Non, mais en tout cas, je voulais la remercier. En fait, je la salue. Je la salue, Suzanne. Puis, ben voilà, c'est ça mon expérience. Puis, ça me laisse plein d'opportunités aussi de vous aider là-dedans. Mm-hmm. Ça me fait vraiment plaisir.
Merci beaucoup. Ben oui, Solène, oui.
Moi, je tiens juste à dire que c'est grâce à Parents Plus que j'ai eu ma deuxième. Parce que comme les équipements nous aidaient vraiment beaucoup, m'aidaient au quotidien, j'étais maman à la maison avec ma jeune Léonie, ma première. Puis quand j'ai vu que je me débrouillais autant bien, je me suis dit, hey, j'en veux deux, j'en veux trois, j'en veux quatre, des enfants. Tu sais, Parents Plus a vraiment fait en sorte un gros, gros rôle dans mon rôle de maman à la maison, qui a fait en sorte que j'ai voulu en avoir d'autres, des enfants. Finalement, ça s'est arrêté à deux, mais c'est parfait.
mais c'était quoi l'aide que vous avez eue de Parents Plus?
Oui, c'est des équipements techniques. En fait, j'ai eu une bassinette adaptée. Donc, moi, mon enfant, elle m'a connue en fauteuil roulant. Donc, elle s'est adaptée à ma condition. Puis, à l'âge de 7-8 mois, là, je prenais Léonie dans mes mains, elle grimpait sur mes jambes. On se trouvait des trucs, là, tu sais, pour être capable de vivre au quotidien ensemble. Donc, la bassinette qui nous a bien aidés. On a eu aussi un bain qui est accessible. Donc, pour moi, je pouvais donner le bain à ma fille sans danger parce que c'était très, très bien conçu. Très sécuritaire. Il y a des normes canadiennes aussi avec Parents Plus qu'on n'a pas le choix de respecter. Il y a eu aussi une petite veste que mon enfant portait. Donc, elle marchait à quatre pattes. Moi, j'étais toute seule avec elle à la maison. Et je pouvais la prendre de par terre parce qu'il y avait des petites courroies sur la veste. Donc, sécuritaire encore une fois. Elle grimpait sur moi. Donc, on s'est trouvé des trucs avec les adaptations de Parents Plus, justement, pour être capable de vivre ça au quotidien. Donc, ça, c'est les trois équipements qui me viennent en tête en premier, là, qui m'ont vraiment aidée puis qui ont vraiment fait en sorte qu'on se débrouillait bien. Là. Bien, je me débrouillais bien.
Bien, je suis tellement heureuse d'entendre qu'il y a justement tous ces services qui existent. On va en parler d'ailleurs. Et j'ai une question qui s'adresse peut-être plus à nos spécialistes, à savoir justement, chacun dans vos propres rôles, en quoi consiste justement votre rôle? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous apportez aux parents avant? Donc, quand ils viennent vous voir pour vous dire qu'ils désirent être parents, Comment vous faites-vous? Comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous leur dites?
Je peux peut-être commencer. Oui. Bien, moi, en fait, en tant que chercheur postdoctoral, puis même ces dernières années au cours de mes travaux de recherche, moi, mon rôle, ça a été beaucoup de documenter cette réalité-là. On en parle aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire qu'on ait un événement grand public comme celui-là aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une réalité qui est méconnue que celle de la parentalité en situation de handicap. Donc, moi, je pense que mon rôle, avec celui de mes partenaires, mes collègues chercheurs, les parents aussi, bien sûr, bien, c'est de montrer cette réalité-là au grand jour, de mieux comprendre quels sont leurs besoins au quotidien, puis finalement, quels services est-ce qu'on pourrait mettre en place pour encore mieux répondre à leurs besoins sur le long terme. Donc, je dirais que ce serait ça mon rôle à moi.
Intéressant. Débit, de votre côté.
Oui, merci. Alors, comme travailleuse sociale, je travaille avec le parent et s'ils sont en situation de couple avec toute la famille. Plein d'enjeux qu'on travaille qui sont, je dirais, vraiment liés à un diagnostic de TSA ou de déficience intellectuelle. On voit beaucoup difficultés d'accès au logement, d'accès à des subventions pour plein de choses, la garderie, les enjeux dans leur couple, les enjeux avec leurs modèles parentaux dans leur famille d'origine. Alors, on travaille beaucoup de choses comme ça en travail social. Et je travaille avec une collègue qui est éducatrice spécialisée. Alors, pour elle, c'est vraiment travailler le diagnostic, le style d'apprentissage de la personne. Bien sûr, on travaille toujours avec leurs forces, on travaille toujours d'une façon très positive et avec les défis, on trouve des adaptations. Souvent, en déficience intellectuelle, on apprend beaucoup mieux avec des visuels, alors beaucoup de pictogrammes, beaucoup de répétitions, modélisations. Et c'est ça, il y en a aussi un groupe de soutien pour les parents. Alors, on anime le groupe, mais c'est vraiment les parents c'est leur groupe. Mm-hmm. On est là pour mettre les dates sur le calendrier et réserver une salle, mais c'est une communauté de mères avec une déficience intellectuelle et c'est une communauté qui est difficile à se retrouver ailleurs. Alors, tout le monde se déplace, tout le monde se connaît, ils partagent leur deuil, leur colère, leur anxiété, mais aussi toutes les choses positives de la vie d'être parent. Et on est là pour les soutenir et être, comment dire, avocate pour eux un peu, mais aussi c'est eux qui font le travail de tous les jours. On est là pour les soutenir à chaque étape, vraiment.
Très bien. Madame Allard, de votre côté? Oui,
de mon côté, comme ergothérapeute, bien, c'est vraiment de rencontrer les parents avant qu'ils soient parents. Souvent, si on a la chance avant l'arrivée du bébé, pour voir avec eux, ça va être quoi les. Qu'est-ce qui va être facile, qu'est-ce qui va être plus difficile pour eux, puis comment qu'on peut compenser la situation. Fait que nous, on donne surtout des services pour des enfants qui auraient 0-2 ans. Puis dans 0-2 ans, l'enfant a besoin d'être manipulé, déplacé. Le parent, il a besoin de faire beaucoup de gestes pour l'enfant. Donc, on va regarder, en fait, on va faire une analyse de ces soins-là. Puis, comment on pourrait faire pour que ça soit plus facile? Alors, est-ce qu'on doit s'installer? Pour certains parents, c'est plus facile de le faire au sol au lieu de faire le changement de couche sur une table allongée? Ou est-ce que le lit, par exemple, est accessible? Les parents ici ont parlé de ça. C'est un grand enjeu. Hein? Pour la sécurité de l'enfant, il y a plusieurs équipements qu'on doit utiliser pour lui, mais qui ne sont pas nécessairement faciles à accéder pour le parent. Donc, nous, notre travail, c'est de faire baisser, d'abaisser ces barrières-là là, au niveau des équipements de bébé. Puis, on travaille aussi, on fait des recommandations, mais on travaille aussi pour les développer. Récemment, on a fait un travail avec une firme de designers industriels pour créer un nouveau lit. Je disais ça à nos parents qui ont expérimenté l'ancien lit. Donc c'est le travail qu'on a à faire. Donc, donner des recommandations, voir comment on peut faciliter ça, les soins à l'enfant. Puis, voilà, on les accompagne là-dedans du mieux qu'on peut.
Oui, Lucilla.
Je voulais ajouter un élément que je trouve important pour soutenir les personnes qui vivent au quotidien l'expérience du handicap ou qui sont les personnes autistes comme moi, et de combattre la stigmatisation qui existe parce que parfois on pense que la personne n'est pas capable d'être bon parent, on n'a pas les capacités. Par exemple, dans mon cas, parfois on m'a dit directement que je devais me faire stériliser pour ne pas transmettre l'autisme ou des choses comme ça. Non? Il y a des parents qui ont toutes de nos capacités et donc on pense que oui, on n'a pas le désir d'être parent ou qu'on va être irresponsable. Donc il faut un travail aussi pour changer cette façon de penser et les mythes qui existent.
Mais justement, là, on va parce qu'on a malheureusement, on n'a pas toute la journée, on l'aurait pris sinon, on a à peu près une heure et elle est déjà bien entamée. Mais parlons justement du moment où vous êtes devenus parents. Vous avez tous déjà commencé à parler des difficultés auxquelles vous avez fait face. On veut savoir quelles ont été vos difficultés et comment vous avez fait face à ces obstacles. Est-ce que vous avez des anecdotes, des moments qui vous ont marqué, que vous voulez nous partager?
Ben, oui, c'est pas tout rose. C'est pas tout rose. Mais si vous pensez vouloir un enfant, adopter un chien avant, ça va vous donner un bon test. Blague à part. Pendant que Fanny était enceinte, on a eu la chance d'avoir un CST très innovateur, très souple. Donc, pour nous, l'enjeu pour ne pas fatiguer Fanny, fallait lui donner du répit. Hein. Donc, oui, les parents sont venus, mais le CST avec. Je m'étais en 5 ans pour service, m'étais à domicile, on a vraiment mis le paquet au début pour nous aider, puis pour qu'on puisse embaucher les gens qu'il fallait, puis on a fait la gaffe de déménager en banlieue.
Okay.
On était à Montréal, les heures ont coupé de façon drastique. Alors, les prérogatives de parentalité, ils ne sont pas vraiment encore tout à fait intégrés dans les grilles d'évaluation. Donc, ça, il faut vraiment y penser. Faut, avant d'y aller, il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de ressources possibles, oui, de la famille, mais du gouvernement, parce que on a nous-mêmes défrayé des frais Mais au niveau fiscal, si on a moins de 70 ans, on ne peut pas réclamer ces frais-là. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau mesures financières. Si le droit doit être reconnu, adapter certains programmes.
Et vous êtes très bien placé pour en parler aussi, justement, le domaine financier. C'est tellement pas connu de beaucoup de personnes handicapées. On n'est pas nombreux, en fait, à savoir quels sont nos droits.
Il y en a de plus en plus. Donc
mais c'est pas crié sous les...
Un autre musique aussi.
Oui. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Guillaume Parent. Mais merci, c'est un volet intéressant, Guillaume.
Merci. Pour moi, je dirais, mon premier enfant Aura était plus dur que mon deuxième enfant Luna. Parce que toutes les choses clichés qui disent avoir une enfant, quand tu entends ça, ça change la vie. Toutes les choses sont toutes vraies. par contre, le changement, c'est pas comme overnight dans ce sens-là, comme mentalement. Parce que tu penses que tu peux toujours vivre ta vie comme tu le vivais avant avec l'enfant et après tu réalises, OK, ces changements, il y a des choix que tu dois commencer à faire pour que ta vie change. Je pense que initialement, je n'avais pas accepté ça. Et j'avais beaucoup de difficultés avec ça parce que dans la première année de la vie de Aura, j'étais un peu comme overloaded avec du travail. Et j'ai jamais pris du temps off. 10 jours après que Aura était née, j'étais en la Corée du Sud pour faire une compétition de danse. Et après, j'avais mon programme de danse où j'avais 130 jeunes avec 32 employés qui travaillaient pour moi. Alors, j'ai géré tout ça, puis j'ai retourné à la maison. J'ai essayé de gérer être papa et mon travail, gérer papa et ton travail, et je ne savais pas comment faire ça. Puis c'est là où j'ai réalisé que je me suis brûlé. Comme j'ai un peu comme dans un burn-out. Mm-hmm. Mais là, j'ai réalisé que mon handicap m'empêchait d'être un bon papa parce qu'il y avait des choses physiques que je n'étais pas capable de faire. Pour exemple, prendre ma fille dans mes mains. Ça, c'était quelque chose, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que mon premier enfant, on n'a pas utilisé les services de parents plus. Mon deuxième enfant, on utilisait les services de parents plus. C'est là aussi pourquoi les choses étaient un peu plus faciles. Mm-hmm. Parce qu'avec mon premier enfant, j'ai essayé de prendre ma fille, puis je n'étais pas capable de la prendre. Je prenais des chandails, je mettais ma fille dans les chandails, je pliais le chandail, je levais le chandail avec ma fille dedans, mais c'était dangereux, c'était un risque que je prenais, mais je le mettais au sol. Après, j'allais au sol, puis je me traînais au sol sur mes fesses avec ma fille sur mes jambes. Et physiquement, c'était quelque chose que j'étais vraiment fatigué à la fin de la journée, en top avec le travail et tout ça. Alors ça, c'était quelque chose vraiment dur pour moi à m'accepter. Et je pensais que mon handicap m'arrêtait à être ce bon papa. Mais c'était ma femme, Elissa, qui m'a rappelé que dans ma vie, je me suis toujours adapté, que Aura, elle aussi, elle s'adapterait avec moi. Et là, je commençais à prendre les choses un peu plus relaxes. Et j'ai mis un peu moins de pression et je dis, OK, on va apprendre entre nous-mêmes. Puis Aura a commencé à s'adapter autour de moi. Moi, je commençais à m'adapter autour d'elle. Puis les choses ont devenu un peu plus faciles. Puis avec ma deuxième fille, Luna, elle était née le 18 mars 2020, la journée avant que le monde a fermé. Notre défi, c'était le fait qu'on n'a eu aucune aide avec les familles parce que les familles n'étaient pas là. L'autre défi, c'était que ma fille Luna était née avec le même handicap que moi. Alors, journée 2 de sa naissance, elle a eu sa première chirurgie. Puis elle était en plâtre. Puis elle a resté pour 2 semaines à Saint-Justine. Et le fait que nous, on faisait le trajet entre Saint-Justine et la maison tous les jours, quasiment, c'était nous le risque pour les personnes autour de nous. Alors, les docteurs ont dit, non, tu ne peux pas être avec tes parents. Mes parents étaient plus de 70 ans. Même ta fille Aura, elle doit vraiment se quarantine et tout ça. Alors, nous, on était vraiment comme coincés. Par contre, ça m'a donné l'opportunité de ne pas travailler et être là, présent pour ma fille, comparé à ma première fille. Et après, là, j'ai appelé pour les services de parents plus. Ils ont amené le lit qui ouvre par les côtés. Comme ça, c'était plus facile pour faire le transfert. J'ai une ambulatoire qui c'était comme une marchette avec une chaise bébé. Alors, je pouvais transporter Luna d'une chambre à une autre chambre. Et physiquement, c'était des choses beaucoup plus faciles à gérer. Et j'étais moins fatigué. Puis, j'étais aussi beaucoup plus présent. Alors, je dirais, ça, c'est quelque chose, je dirais, si il y a des personnes qui sont en train de penser d'avoir un enfant, peu importe ton handicap, la réalité, avoir un enfant, c'est une difficulté et c'est quelque chose. Par contre, c'est une des plus belles joies de la vie. Puis pendant que ton expérience avec ton enfant, tu vas apprendre et ton enfant va apprendre de toi. Et c'est vraiment un partage entre ça. Et ne soyez pas gênés de demander de l'aide si vous avez besoin d'aide.
Mais je suis certaine que tu es un super papa, je suis sûre, même les difficultés. Mais est-ce que ça te faisait peur de transmettre ton handicap à ton enfant avant d'avoir des enfants? Est-ce que c'était une peur pour toi?
Oui et non. Dans le sens que on a toujours dit si notre enfant allait avoir un handicap, we don't care, dans ce sens-là. Vous êtes like, go for it, dans ce sens. Ça, c'était un peu comme notre mentalité. Et je dirais, qu'est-ce que j'étais plus peur? C'était pas ma fille, c'était comment moi je gérais mon temps pour assurer que je pouvais donner le bon temps à ma fille. Parce que je suis toujours très actif dans mon travail, et je suis un peu comme un workaholic. Alors ça, c'est un peu comme mon problème à moi que je dois gérer, mais je pense que j'ai trouvé l'équilibre en ce moment dans ma vie pour faire les deux. Par contre, quand j'ai su ça, je dis « oh crap ». Comment je peux continuer toujours vivre ma vie comme je le vis avec ma fille en savant qu'il y aura des opérations, qu'il y aura les visites au physiothérapeute et toutes ces choses. Puis, en toute sincérité, c'est que si tu le veux, tu vas trouver une solution. Et en ce moment, on a trouvé cette solution, puis ça marche pour nous.
Bravo. Oui. Lucilla et Solène, est-ce que vous avez des moments qui vous ont marqué, des anecdotes que vous voulez nous partager au niveau des difficultés ou des craintes que vous aviez pu avoir, en fait?
Et au niveau des défis... Ah, allô?
Oui.
Au niveau des défis, oui, j'en ai eu depuis le début. Et quand j'ai eu mon bébé, je me disais que je vais retourner à l'informatique quand il va aller en garderie et tout ce qu'ils font les familles conventionnelles. Mais mon fils avait besoin de beaucoup d'attention et selon les manuels qu'on reçoit à la naissance, mais il y avait des choses qui dans son développement. Et donc, j'ai découvert que mon fils était autiste et ça m'a mis dans la piste que moi aussi. Mm-hmm. Et, par exemple, mon fils se réveillait à plusieurs reprises, ne dormait pas bien. No? C'est la nuit jusqu'à l'âge de 5 ans et moi aussi avait besoin d'être à côté de moi aussi dans sa motricité, de l'aider. Mais par rapport à l'entourage, je recevais beaucoup de critiques. Par exemple, laisse le pleurer parce qu'il va s'adapter. Des critiques pour ma façon d'être maman. Quand il est allé à l'école, le milieu scolaire, malheureusement, n'est pas adapté à toutes les façons d'apprendre. Donc, je devais accompagner à mon fils aussi à la maison. Ce que je dois, comme Lucas disait, on doit apprendre à faire des choix. Et donc, j'ai décidé de rester à la maison avec lui et me créer un travail indépendant à la maison jusqu'à qu'il soit plus autonome ou que je puisse travailler maintenant, comme maintenant je travaille à temps plein. Mais c'est quand il a eu 6 ans, à partir de ça, non? Mais pendant longtemps, ça a été un défi aussi de faire face aux critiques, aux jugements et tout ça qu'on entend de l'autre côté. Non?
Oui.
D'apprendre à mon fils aussi à se défendre, de façon pacifique, gentille, respectueuse, mais se défendre, de dire non, je ne suis pas ce que vous dites de moi, non. Ou vous n'avez pas le droit de m'insulter ou me ridiculiser pour être comme je suis, etc. Non, ce sont des défis, comme maman.
Merci pour votre partage.
Et Solène, bon, vous nous en avez parlé un peu tout à l'heure du côté plus technique, justement, au niveau de la manipulation, de prendre portée votre enfant. Est-ce que vous avez peut-être un truc à nous partager ou quelque chose qui vous a vraiment changé la vie?
Bien, en fait, c'est que c'est un tout. La question que vous posiez, c'est les difficultés, tout ça qu'on rencontre. Et moi, le côté le plus difficile que j'ai eu à faire face, c'est surtout les préjugés avant même que mon enfant naisse. Donc, l'entourage avait beaucoup plus de craintes que moi. Moi, qui n'ai pas visionnaire à long terme, qui vit le jour, parce que dû à l'accident, veut pas, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, je n'ai pas cette chose en moi qui va faire dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer, je ne le sais pas. Donc, quand j'ai eu mes enfants et j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte, je me suis fait dire par un exemple concret, OK, tu es enceinte, mais éventuellement, tes enfants vont avoir des amis. Ils vont aller à l'école. Est-ce que tu as peur qu'ils se fassent intimider à cause de toi? Là, je me suis dit, wow, OK, si cette personne-là a cette question-là, ce questionnement-là, ça veut dire que souvent, peut-être que la société l'a aussi. Est-ce que je vais me lancer dans une mission de vouloir dédramatiser le handicap? Bien, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Donc, mon mari et moi, on a décidé de se lancer dans l'ouverture d'une école alternative. L'école alternative que ça fait, en fait, c'est que les parents s'intègrent beaucoup dans le quotidien des enfants. On va faire du bénévolat à l'école. On est capable d'assister le professeur en faisant de la coéducation. Donc, moi, on dirait que par cette mission-là d'aller voir les jeunes et montrer que, ben oui, je suis en fauteuil roulant, mais c'est pas ça qui arrête dans la vie et qui fait en sorte que tu n'es pas moins capable de faire des choses. C'est sûr qu'au début, on a eu des questionnements. Mes enfants, ils n'ont pas posé de questions sur le fait que j'étais en fauteuil avant l'âge de 5 ans, 6 ans, l'âge de rentrer à l'école, évidemment, parce que les amis posaient des questions. Mm-hmm. Et là, à chaque fois, je disais à mes filles, tes amis ont des questions à poser, qu'ils viennent me les poser à moi. Toi, tu peux pas répondre, tu le sais pas. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout mon temps, j'ai toute l'ouverture du monde. Ça me fait plaisir de répondre à toutes les questions. Souvent, c'est aussi les adultes qui disent aux enfants, « Non, on va pas l'avoir. »
Oui. Ouais, c'est souvent les adultes qui vont mettre une barrière où ils vont avoir un petit peu ils vont aller en fait derrière, ils vont avoir du recul, mais on veut qu'ils viennent vers nous.
Exactement.
Au contraire.
Sûrement, ça arrive à des personnes que ça tente pas nécessairement de répondre aux questions, mais oui. La plupart du temps, moi, je connais personne qui a dit non, surtout aux enfants. C'est tellement innocent des enfants, c'est ça, tout à apprendre. Donc, mm-hmm. Pourquoi pas leur apprendre en répondant justement franchement aux questions qu'ils ont à poser? Et effectivement, les amis viennent à la maison. Solène a fait des biscuits. Solène a fait les dîners, a fait les soupers. Elle danse, elle chante. On fait plein de choses. Donc, c'est une vie totalement ordinaire. Comme
bien, merci. C'est ce qu'on veut entendre. Et c'est ce qu'on est venu dire tous, hein, je pense, chacun à notre manière. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose?
Moi, j'avais voulu faire ça. Ça vient comme ça, m'impliquer à l'école au CPE. Au Québec, la majorité des garderies, des écoles sont pas accessibles. Donc, j'ai jamais pu m'impliquer comme je désirais dans cette sphère-là. Je me suis impliqué autrement. Mais de 0 à 5 ans, j'ai trouvé ça très, très dur. Oui, j'avais la chance d'interagir, d'aller par terre avec lui, mais dans le fond, la parentalité, ça joue à deux.
Oui.
Donc, le pire défi, je pense, c'est le risque d'épuisement du conjoint. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, puis il faut préserver ça, surtout quand le conjoint demande beaucoup, beaucoup de soins. C'est vraiment de vraiment ouvrir la communication puis d'essayer de y a pas de recette miracle, mais faut vraiment aider l'autre puis lui permettre de sortir de la maison et d'avoir une vie. Ça, c'est hyper important. Ça joue à deux.
Mais oui.
Mais ça fait du bien à tout le monde, tu sais, de sortir de chez nous. Parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi en apprenant, de faire face à nos défis aussi, de nos obstacles. On devient meilleur comme ça, puis on est encore mieux dans notre peau.
Oui, mais pour ça, il faut avoir des gens dédiés qui peuvent garder les enfants. Donc, nous, on a été très chanceux, mais c'est une condition pour nous là, qui a été essentielle hein, à la survie.
L'entourage est important et évidemment les organismes de soutien. Rapidement, il nous reste quelques minutes. J'aimerais demander peut-être à nos spécialistes, est-ce que vous trouvez que, peut-être au niveau de la recherche aussi et des services qui existent déjà, est-ce que vous êtes satisfaite en tant que travailleuse sociale, ergothérapeute? Est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer? Je pose la question, j'ai un peu la réponse en tête. Mais quelle est votre opinion à ce niveau-là? Pour le futur aussi, hein, pour les enfants, parce que les enfants vont grandir. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aussi à ce niveau-là? Nathalie?
Bien, je peux y aller. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à faire. On a parlé d'équiper les parents, de les aider pour le 0-2 ans. On est surtout à l'intérieur, mais l'enfant, il va grandir, il va bouger par lui-même, il va parler, il va exprimer sa personnalité. Puis ça, l'enjeu, il devient plus dans la relation entre le parent, la collaboration qu'il peut avoir avec son enfant, puis de l'amener à l'extérieur. Fait que qu'est-ce qui reste, je pense, c'est que notre société évolue, puis que les programmes, on a la chance d'être au Québec, il y a énormément de programmes pour aider les familles. Mais est-ce que ces programmes-là sont vraiment adaptés à la réalité parentale de tous, si je pense au transport adapté, aux services de soutien à domicile aussi, pour l'autonomie? Est-ce que vraiment on aide tout le monde. Fait que je pense que c'est là qu'on a besoin d'évoluer.
OK, intéressant. Évelina, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Bien, oui, effectivement. Puis j'abonde dans le même sens que toi, Nathalie. Je pense qu'il y a des choses remarquables qui se font au Québec puis qui font même l'envie ailleurs, dans d'autres provinces canadiennes, ailleurs dans le monde. On a des exemples aujourd'hui avec la clinique Parents Plus, avec le service parentalité aussi. Mais moi, ce que j'entends dans mes travaux de recherche avec mes collaborateurs, c'est que les parents vont déplorer que ces services-là, toute bonne chose a une fin, ces services-là se terminent un jour. Et là, les parents nous rapportent le sentiment d'être projetés dans le vide, ne pas savoir vers qui se tourner après une certaine période donnée où on a eu accès à toute cette gamme de beaux services-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les invités, on a mis plein de défis.
Oui.
Et il faut réfléchir à ça en tant que société, des défis à répondre en tant que, au niveau de l'accessibilité. On parle beaucoup d'accessibilité universelle. Je pense qu'il y a des défis aussi en termes d'accès à l'information. Donc, comment est-ce que je peux trouver une information qui me concerne en tant que parent en situation de handicap? Donc, vraiment, il y a des choses, c'est ça, extraordinaires qui se font, mais je pense qu'il faut aussi voir plus loin et à plus long terme pour soutenir les parents, mais les familles, tu sais, conjoints, les enfants, etc.
Est-ce que, Davy, vous voulez ajouter quelque chose?
Je fais écho à tout le monde. Je pense qu'on a fait énormément de chemin et on a encore du chemin à faire.
Ouais.
Dans nos services, c'est sûr que la vie d'un enfant, c'est long et ça change à chaque mois même. Alors, c'est ça, on a besoin que les services restent à long terme, à soutenir les parents et pas juste à l'âge scolaire, disons. Mais c'est vrai qu'à l'âge scolaire, il y a plein d'autres services qui entourent l'enfant. Ce qu'on voit aussi qui est un peu ironique, c'est que souvent, la famille qualifie pour beaucoup, beaucoup de services, mais on ne veut pas se ramasser avec 6 intervenants dans le salon de quelqu'un, aller poser des questions. Ça peut être aussi très envahissant. Alors oui, on veut une bonne fréquence de services, mais c'est important aussi d'avoir un intervenant pivot ou deux qui ont vraiment comme un bon lien avec le parent. Et ensuite, le reste, vraiment d'arrimer les services et pas faire ça de façon trop envahissante. Alors, on veut, oui, qu'ils qualifient pour beaucoup de services à long terme, mais de travailler comme ensemble et avec un intervenant pivot, je dirais, c'est important pour le parent.
Bien, merci vraiment pour cette discussion aussi instructive. C'est sûr qu'on peut en parler encore et encore pendant des heures. Merci de votre participation. Et j'espère, vous, le public, vous avez appris quelque chose et que ça a été intéressant. Alors, on continue là-dessus pour que ça s'améliore encore aujourd'hui. Mais merci pour toute l'aide que vous offrez pour les parents. C'est très apprécié. Alors, dans quelques minutes, on va dévoiler les finalistes des prix à part entière.
Donc, vous pouvez rester avec nous. Je ne sais pas, je demande à l'instant, Carole, est-ce qu'on a le temps pour que le public pose des questions à nos invités? Une ou deux questions? Est-ce qu'on a des volontaires, des curieux? Oui, monsieur?
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc les freins ou les enjeux au travail pour, au niveau de votre intégration.
Moi, je suis travailleur à Denham, alors ça c'est un peu dur pour moi à dire ça. Par contre, qu'est-ce que je peux dire si on parle de l'accessibilité en général? C'est sûr que chaque lieu est complètement différent. Ici, le Place des Arts, c'est incroyable, mais il y a aussi des enjeux avec l'accessibilité. Si on parle juste ici, il n'y a pas comme un ascenseur pour aller au tunnel. On doit sortir pour les personnes en fauteuil roulant ou si vous avez un poussette. Alors, il y a des petites choses que tous les lieux peuvent s'améliorer, même des écoles. Je travaille beaucoup dans des écoles. Je rentre dans des écoles qui n'ont pas d'ascenseur de tout. Alors, je dirais comme ça, c'est tous des enjeux en termes de l'accessibilité que le travail doit se faire tous les jours. Et je pense la sensibilisation et je pense la semaine des personnes handicapées, des Québécoises des personnes handicapées, c'est extrêmement important. Par contre, ça ne va pas juste être une semaine, ça va être toute l'année dans cette sensibilisation.
Ouais. Merci. Une autre question? Oui, avec le micro, ça va aller mieux.
On m'entend, oui. Bonjour, mon nom c'est Laurence. Une petite question. Au niveau de vos conjoints, peut-être s'il y en a qui ne sont pas des personnes en situation de handicap ou peut-être le sont, peu importe. Comment vous gérez ça, là, la répartition du rôle de parent avec votre conjoint? L'échange, comment ça se fait avec la dynamique de famille?
Oui, je peux tellement répondre là-dessus. Là. Tu sais, j'arrive beaucoup avec des situations où est-ce qu'on me dit des choses, puis je réponds à tout ça. Donc, on s'est fait dire, mon mari et moi, que c'était la maman, c'était le papa, c'était le parent, c'était lui qui était responsable des enfants. Et nous, dans notre dynamique familiale, je suis tellement la maman et il est tellement le papa. Je veux dire, on a nos fonctions chacun. J'y vais au bout de ce que je peux faire, mais lui aussi va au bout de ce qu'il peut faire. Donc, c'est moi qui gère les conflits, c'est moi qui gère la famille, c'est moi qui gère tout ça. Donc, on a chacun nos tâches, on vit avec ce genre de dynamique-là. On prend notre place, chacun, à notre façon. C'est sûr que c'est pas moi qui va sortir les poubelles, mais ça, je laisse ça à ceux qui marchent, là. Mais c'est ça, tu sais, on prend notre place, chacun, à notre façon, puis on se laisse aussi la place. Mm-hmm. Mon chum, il me laisse être maman, il me laisse prendre soin, il me laisse être qui je veux dans le rôle familial.
Très beau. Merci beaucoup. Alors, on est de retour. On vous a promis qu'on allait faire le dévoilement des finalistes du prix à part entière. Je vous fais une petite description du fameux prix, même si certains d'entre vous en avaient peut-être déjà sûrement entendu parler. C'est un prix qui vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Donc, ce sont des prix qui sont remis tous les 2 ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Son porte-parole, d'ailleurs, est l'auteur, le producteur Stéphane Laporte. Alors, c'est très simple. Le prix comporte 5 catégories, donc pour lesquelles les bourses vont être attribuées. On a la catégorie des individus, des organismes à but non lucratif, des municipalités, les MRC et toutes les autres communautés. Il y a aussi les établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative et la dernière catégorie, les entreprises qui soutiennent l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Donc, pour l'édition 2023, on a eu 141 candidatures qui ont été reçues et les finalistes sont maintenant connus, c'est ce qu'on vous annonce à l'instant, et on profite de le faire pendant cette première journée de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, je vais commencer avec la première catégorie des individus. Nos finalistes sont Michel Lepage, Pierre-Yves Lévesque, Paul Gaudet, Julie Normandin et Richard Saulnier. Je te passe la parole.
Alors maintenant, pour la catégorie organismes à but non lucratif, il y a la gang en Hambrou, les impatients, Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides, Moelle et Pinière et Motricité Québec, Réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Pardon. À vous.
Maintenant, pour les municipalités MRC et autres communautés, on a l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, la municipalité de Cap-Saint-Ignace, la ville de Beaconsfield, donc la bibliothèque, et la ville de Saguenay.
catégorie établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative, Centre La Croisée, Collège Radio-Télévision de Québec, Comité d'implantation des stages de travail adaptés en milieu universitaire à l'UQAR, École secondaire Chanoine-Baudet, Jeune coopérative éducative ESCL.
Et pour notre dernière catégorie, les entreprises qui soutiennent l'intégration des personnes et le maintien en emploi des personnes handicapées, on a la coopérative de consommation de l'île d'Anticosti et les hôtels Fairmont de l'Est du Canada. Alors, bravo à vous tous! Alors, si vous voulez en savoir plus sur le parcours et l'histoire de chacune de nos candidatures qu'on vient de vous nommer finalistes, vous pouvez aller consulter en fait la page web des finalistes du prix à part entière sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec. Petite dernière information avant de laisser la place à notre conférencière. J'ai une autre belle annonce à vous faire. L'Office lance aujourd'hui même la toute première édition du prix Laurette Champigny-Robillard. Donc, c'est un prix qui sera remis dans le cadre de l'attribution du prix à part entière. Ce prix est nommé en l'honneur de la première présidente directrice générale de l'Office et il vise à rendre hommage à une personne handicapée dont les actions et le parcours sont non seulement exceptionnels, mais exemplaires et inspirants. Donc, c'est un prix qui est géré et attribué entièrement par les membres du conseil d'administration de l'Office. Les personnes et les organisations lauréates du prix à part entière, ainsi que du prix Laurette Champigny-Robillard, seront connues à l'automne prochain. Donc, il faudra rester patient d'ici là, dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Alors, voilà ce qui était pour le dévoilement des prix à part entière. Alors, c'est ce qui met fin à notre merveilleux midi causerie d'aujourd'hui. Je tiens à remercier nos invités panélistes, les personnes qui nous ont suivis aussi en direct sur Facebook et aussi sur la plateforme de Canal M. Alors, merci d'ailleurs avec notre belle collaboration avec le Canal M qui est aussi diffusé sur sa plateforme. L'événement pourra être donc revisionné ou même partagé. Merci à toutes les autres personnes qui ont contribué à l'événement d'une façon ou d'une autre. Je tiens aussi à souligner la présence de plusieurs directions d'associations et d'organismes de personnes handicapées, ainsi que d'organismes publics. Je remercie Hydro-Québec, qui a contribué financièrement à l'impression et le publipostage du matériel promotionnel de l'événement. Et Rosalie, ma chère Rosalie, je t'invite à revenir devant pour te remercier. C'est toujours un plaisir pour moi de co-animer avec toi. Donc, j'espère qu'on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, si tu veux venir avec moi. Oui, entre. Mais oui, les deux ensemble, on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour avoir pu souligner la 27e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, je vais rester sur les mots de Virginie encore. On n'abandonne pas, jamais, on continue et bonne chance à tous. Merci encore infiniment. Bonne journée.
Bonne semaine à tous, puis merci Camille encore. En tout cas, j'espère qu'on va retravailler ensemble. C'est tout ce que je souhaite.
C'est sûr.
Merci tout le monde.
Merci beaucoup.